Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gasbook Journal. Ebenezer International. Your station.
Vous écoutez Des hommes comme nous. La reprise des études bibliques du pasteur Erwin Buchmann. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis fidèles de la radio chrétienne Ebenezer International, je vous dis bonjour et vous remercie sincèrement de votre intérêt pour ce ministère, la radio chrétienne Ebenezer International, dont l'objectif principal est de vous pourvoir de bonne nourriture spirituelle. C'est votre ami podcasteur, votre serviteur Franck Doristil qui est de retour avec ce nouveau programme « Des hommes comme nous » ou tout simplement « Oconopode ». Ce nouveau programme vous permettra de revivre quelques-uns des messages du pasteur d'origine suisse, Erwin Buchmann, avec qui nous avons entretenu de très bonnes relations avant son départ pour l'éternité. Étant l'un des premiers pasteurs qui ont accepté de collaborer avec la radio chrétienne Ebenezer International, nous avons jugé nécessaire de garder précieusement ces messages afin de permettre au plus grand nombre possible de les écouter et de tirer les différentes leçons que le Seigneur veut nous y communiquer. Vous n'êtes pas sans savoir, chers amis à l'écoute, que notre monde traverse actuellement un moment très difficile qui pousse beaucoup de gens au bord du désespoir. Des hommes comme nous ne s'adressent pas seulement aux croyants, mais de façon générale à tous les hommes et les femmes qui réalisent qu'ils sont des êtres humains avec leurs compétences et aussi leurs faiblesses. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute. Vous écoutez Des hommes comme nous.
Basque fantasme du ciel, ni le présent ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour.
Daniel Piala pour ce chant, cette douce prière. C'est maintenant le moment d'écouter la première partie de cette étude sur la vie du prophète Élie.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous allons pendant les prochaines études suivre le prophète Élie, essayer de comprendre les leçons que Dieu nous donne à travers cet homme de Dieu exceptionnel de l'Ancien Testament. Je vais citer ou lire un certain nombre de passages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc, si vous avez la possibilité, en m'écoutant, de prendre des notes, munissez-vous de quoi écrire. Vous pourrez ainsi, plus tard, repasser dans votre cœur les passages bibliques que j'aurai cités. Voici un peu de musique pour vous laisser le temps de vous munir de quoi écrire. Nous allons faire une lecture d'introduction dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5, où je lirai les versets 17 et 18. Élie était un homme comme nous, un homme de la même nature que nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il pria avec ferveur pour qu'il ne plût point. Effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna de la pluie. La terre commença à produire des récoltes. En novembre 1947, le Seigneur m'a rencontré et m'a sauvé. Je suis né de nouveau, sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. En effet, après avoir, dans ma misère, crié à Dieu pendant des jours et des jours, un matin, je me suis réveillé et je n'étais plus le même jeune homme que les jours précédents. Une profonde paix m'avait envahi et un amour inconnu remplissait mon cœur au point que j'avais envie de serrer dans mes bras même mes ennemis. Dans le groupe de jeunes chrétiens avec lequel on m'a mis en contact, quelqu'un m'a prêté un livre à lire. Ce livre s'intitulait « La puissance du Seigneur ». C'était la biographie du missionnaire Hudson Taylor, fondateur de la mission intérieure de Chine. C'est en lisant le récit de sa conversion que je compris soudain que la disparition de la crainte de la mort et la paix qui remplissait mon cœur, découlait du fait que Jésus, l'agneau de Dieu, avait sacrifié sa vie pour moi au calvaire. Aussitôt, je cessai de ma lecture et je me mis à genoux devant ma chaise en disant, « Seigneur, tu as sacrifié ta vie pour moi, tu m'as racheté par ton sang versé au calvaire, en conséquence, ma vie ne m'appartient plus, elle est à toi. Faisons ce que tu veux dès aujourd'hui. » À partir de ce moment, j'ai aimé lire les biographies des hommes de Dieu du passé, mais aussi et surtout celles des hommes de Dieu dans la parole de Dieu, la Bible. En lisant ces récits des hommes de Dieu, voici quelle fut ma réaction. Ces hommes étaient différents de moi. Je ne saurais donc vivre les mêmes choses glorieuses qu'eux. La même pensée me venait en lisant les biographies des hommes de Dieu des temps modernes. Et il y avait en ce moment-là un livre qui circulait, c'était « Dieu leur parla ». Le désir le plus profond de mon cœur était être comme eux. Mais j'avais le sentiment que je n'étais pas fait de la même nature qu'eux, je n'étais pas un homme comme eux, qu'ils étaient vraiment différents et qu'ils avaient des possibilités que moi je n'avais pas. Or, la lecture du passage d'introduction, qui nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, m'a amené à relire attentivement les biographies des hommes de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. J'ai alors découvert leur côté négatif, leurs échecs. Et j'ai relu attentivement l'histoire d'Élie, ce qui m'a permis de découvrir ce que je vais partager avec vous. À savoir que ces hommes étaient vraiment des hommes comme moi, ou autrement dit, moi j'étais un homme comme eux. Et j'en citerai trois exemples. Trois exemples qui nous permettent de découvrir ces hommes extraordinaires et qui pourtant étaient de la même nature que nous, ou comme nous pouvons aller alors le dire aussi, nous sommes de la même nature que. Prenons Moïse. Lorsque Marie et Aaron parlèrent contre lui au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, nous apprenons que Moïse était un homme extrêmement patient. C'est dans Nombre 12, au verset 3, que nous lisons que Moïse était un homme fort patient, plus patient qu'aucun homme sur la face de la terre. Cependant, aux eaux de Mériba, par exemple, il frappe le rocher au lieu de lui parler seulement. Geste d'impatience. Nous lisons dans le livre des Nombres, au chapitre 20, les versets 10 à 13. Moïse dit à Israël, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau, lui et Aaron ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru, pas eu confiance en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. » Ce sont là donc les eaux de Mériba, qui signifie querelle, contestation. Vous n'avez pas eu confiance en moi. Dieu leur avait dit simplement de parler au rocher. Alors, Moïse, dans son impatience, a agi comme la première fois, il a frappé le rocher. Je vois bien là qu'il était de la même nature que moi. Impatient, à certains moments, avec des gestes malheureux. Geste d'impatience. Deuxième cas, Josué. Josué, un jour, il arrêta le soleil pour pouvoir remporter une victoire finale sur les ennemis d'Israël, les Amoréens. Nous lisons dans Josué 10, au verset 12 à 15, que Josué parla à l'Éternel. le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Ce fait a été confirmé lorsque les ingénieurs de la NASA cherchaient dans les temps passés le nécessaire pour pouvoir envoyer des satellites dans l'espace. Presque un jour, parce qu'il leur manquait 24 heures, mais ils ont fini par découvrir qu'il y avait un autre récit que vous pouvez vérifier dans 2 Rois 20, le verset 11, ou bien Ésaïe 38, le verset 8, où on trouve le complément, ce qui fait finalement, effectivement, 24 heures, où le soleil s'est arrêté dans le temps. Et il est dit là, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Or, ce même Josué, qui parle au soleil et à la lune, et Dieu répond à cette parole de son serviteur et accomplit ce miracle, peu avant, Josué a fait alliance avec les Gabaonites pour découvrir 3 jours après qu'il l'avait trompé. En racontant qu'ils venaient de très loin et faisant voir leurs vieux sacs, leurs vieilles outres, des souliers usés et des vêtements usés et du pain sec et en miettes. Josué s'est fié à ce qu'il a vu et entendu, mais il y a un petit mot dans cette histoire-là, au chapitre 9 de Josué, les versets 14 et 15, où il est dit que les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, les provisions des Gabaonites, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Et 3 jours après, ils se sont rendus compte que ces gens-là habitaient au milieu d'eux, ils faisaient partie de ceux qu'ils auraient dû exterminer. Donc le même Josué, qui a vécu quelque chose d'aussi glorieux que de pouvoir arrêter le soleil et la lune, ce même Josué s'est fait tromper bêtement. Mais il est bien dit pourquoi. Parce qu'il s'est contenté de ce qu'il a vu, et entendu plutôt que de consulter le Seigneur. Ce qui me fait dire que quelquefois, lorsque les circonstances paraissent évidentes, ce qu'on voit paraît évident, raison de plus de vraiment chercher le Seigneur pour savoir ce que lui, il en pense. Voilà pour Josué. Mais prenons encore l'exemple de Pierre. Pierre, ce disciple, toujours prompt, est bien décidé. Lorsque Jésus rencontre ses disciples en marchant sur l'eau et qu'il appelle Pierre à venir à sa rencontre, il nous est dit dans Matthieu 14, 25 à 32, que donc vers le petit matin, Jésus allait rejoindre ses disciples en marchant sur les eaux. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils furent affolés, c'est un fantôme, se dirent-ils, et dans la panique, ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais soudain, Jésus leur parla, « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Ah, ce Pierre, toujours prompt, si c'est bien toi, Seigneur, donne-moi l'ordre de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre sauta de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. J'aime bien la manière dont c'est exprimé là. Pierre sauta de la barque. Quand même, il aurait posé doucement son pied pour être sûr que ça allait, qu'elle allait pouvoir marcher sur l'eau, on comprendrait. Mais quand on saute hors d'une barque, plus vite et plus fort on saute, eh bien, plus on va au fond, rapidement. Mais Pierre, il entend la parole de Jésus, il croit et il marche sur l'eau comme Jésus lui-même à la rencontre de son maître. C'est quand il remarque combien le vent souffle fort qu'il prend peur et comme il est sur le point de couler, il crie « Seigneur, au secours !» Immédiatement, Jésus lui tend la main, il le rattrape. « Ta foi est bien faible, lui dit-il, pourquoi as-tu hésité ?» Quand ils furent tous deux remontés dans la barque, le vent cessa. Voilà ce que Pierre a fait d'extraordinaire et vécu d'extraordinaire. Pourtant, plus tard, ce même Pierre reniera son maître. Lui qui était si sûr de lui-même, tellement sûr qu'il affirmait que là où les autres flancheraient, abandonneraient le Seigneur, lui resterait ferme et fidèle. Mais Jésus l'avertit aussitôt et lui dit ce qui va lui arriver, c'est-à-dire que 3 fois il le renierait, lui, son maître, avant le chant du coq. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais il lui dit que lorsque ça lui sera arrivé, eh bien, qu'il ne craigne pas parce qu'il a prié pour lui, pour qu'il ne perde pas sa foi. Et le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, lui dira-t-il, sois le soutien de tes frères, fortifie-les. Une telle expérience négative peut être encourageante dans ce sens-là que nous pouvons ensuite comprendre les autres qui passent par de mêmes difficultés ou de mêmes épreuves et les soutenir, les encourager dans la foi. Mais Pierre, prompt et sûr, avait dit, « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller, s'il le faut, en prison ou même à mourir. » Mais Jésus le prévient aujourd'hui même avant que le coq ait fini de chanter 3 fois déjà, tu auras déclaré que tu ne me connais pas. Et nous savons avec quelle insistance Pierre le dira et le répétera, je ne le connais pas, je ne suis pas de ceux-là. Et aussi comment après, lorsqu'il rencontre Jésus, qu'il regarde simplement ce regard de Jésus, ça le terrasse et il sort en pleurant. Et plus tard, Jésus lui rappellera cela et lui dira simplement en conclusion, « Toi, suis-moi. » Avant de prendre plus exactement et de faire connaissance de ce qu'a vécu Élie, un petit peu de musique.
Vous écoutez Des hommes comme nous, Dany et Moïse Yotrel. Le regard de Jésus. Je vous souhaite une agréable audition.
Dans ses yeux, j'ai lu. J'ai perdu.
des hommes comme nous. Reprise des études bibliques du pasteur Erwin Buchmann.
Donc, Élie était un homme comme nous. Prophète puissant, Élie cependant accomplit et vécut des choses exceptionnelles. Et pour quitter ce monde, il n'est pas passé par la mort comme tous les autres humains. Il a été enlevé dans un char de feu aux yeux de son disciple et serviteur Élisée. Mais voyons un peu ce qu'il a vécu. Premièrement, lorsqu'il se présente devant Achab. Dans 1 Roi 17, le verset 1er, il est dit qu'Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Il affirme qui il est, serviteur de l'Éternel, et il affirme bien haut que ce qu'il dit, c'est là ce qui va arriver. Puis nous le trouvons aussitôt après, au torrent de Crite. Dans les versets 5 à 7, ce même chapitre 17 du premier livre des rois, c'est là que nous allons le retrouver, il alla s'établir près du torrent de Crite, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Il est seul, nul ne sait où il est, mais Dieu prend soin de lui et miraculeusement le nourrit en lui faisant parvenir matin et soir pain et viande. Puis sa rencontre avec la veuve de Sarepta, où l'huile et la farine furent sans cesse renouvelées. Dans ce chapitre 17 du premier livre des rois, versets 15 et 16, « Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. » Il est le porte-parole de Dieu. Il a dit à la veuve, « Fais-moi ce gâteau, tu me le sers, et voici, parole de Dieu, tu ne manqueras de rien. » Et effectivement, depuis ce moment-là, ils n'ont manqué ni d'huile ni de farine. Il y avait de la nourriture tous les jours, miraculeusement. Et cela, c'est ce que Élie a vécu, et selon la parole qu'il a prononcée, c'est arrivé. Il y a d'autres hauts faits dans la vie d'Élie. Ensuite, il y a la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Vous pouvez lire cela dans ce premier livre des rois au chapitre 17, dans les versets 17 à 24. Puis, ce qui se passe sur le mont Carmel, là aussi, lisez-le dans le premier livre des rois au chapitre 18. Versets 16 à 40. Et puis, après ce qui s'est passé, sur le mont Carmel, où le feu du ciel est descendu pour consumer les sacrifices, aux yeux de tous, il a prié pour que la pluie revienne, comme nous l'avons vu dans le texte d'introduction. Et puis, la pluie est revenue et il a couru devant le char d'Akab jusqu'à Jisréel. 1 Roi 18, 41 à 46. Mais avant de découvrir Élie, cet homme comme nous, et de l'approcher davantage encore, un petit peu de musique.
Thank you.
Élie était donc bien un homme puissant, un grand prophète, et il accomplit et vécu des choses extraordinaires. Et pourtant, il était bien un homme comme nous, et cela, nous le découvrons aussi dans le récit de sa vie. Il apparaît alors comme un homme de la même nature que nous, fatigué, découragé, déprimé, voire demandant la mort. Ce fut après l'expérience au Mont Carmel. Nous lisons un passage du chapitre 19 de ce premier livre des Rois, dans les versets 1 à 8. Il est dit là qu'Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis lui, donc seul, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voilà donc Élie, déprimé, découragé, qui n'a plus envie de continuer, comme il nous ressemble, et comme nous le ressemblons quelquefois. Cependant, Dieu ne l'abandonnera pas à cause de cet échec. Il va venir à lui, lui redonner des forces, et le ramener dans sa présence à la montagne de Dieu, à Horeb. La vie, le service, continue. Après le constat de cet échec, découvrons le secret des réussites d'Élie, homme comme nous. Nous trouvons ce secret de ses réussites dans les passages suivants. D'abord dans 1 Rois 17, versets 2 à 5, au torrent de Kérit. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Donc, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, lui fut adressée. Il sait où il doit aller, ce qu'il doit faire. Et il nous a dit, il alla s'établir près du torrent de Kérit, c'est-à-dire qu'il a agi exactement selon ce que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il rencontre la veuve de Sarepta, nous lisons dans 1 Rois 17, 7 à 10, « Donc au bout d'un certain temps, le torrent, fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Pour aller à Kérit, au torrent de Kérit, Dieu lui avait dit, « J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir, de t'apporter de quoi manger. » Ici, il dit, « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Et il se lève et il va. Mais là, de nouveau, nous voyons la même chose. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Nous est-il dit. Il sait ce qu'il faut faire, où il doit aller, et il se leva et il alla à Sarepta. Avant de monter sur le mont Carmel et de vivre ce qu'il va vivre là. Nous lisons dans 1 Roi 18, 1 à 2, que bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla et se présenta devant Achab. La même chose se répète ici. Dieu lui adresse sa parole, lui dit ce qu'il doit faire. Et Élie, nous est-il dit, alla pour se présenter devant Achab. Il est allé faire ce que Dieu lui a dit de faire. La parole de Dieu est adressée à Élie et Élie fait ce que Dieu lui dit. L'obéissance à la parole et la mise en pratique de ce qu'elle dit. Voilà ce qui a fait qu'Élie avait des succès, vivait des moments merveilleux et glorieux. Mais Élie, il a donc aussi, comme nous avons vu, connu la défaite. Comme cela nous arrive si souvent, et pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons regarder de plus près après un peu de musique.
Vous écoutez des hommes comme nous. Des hommes comme nous.
Des hommes comme nous. Tu es le Dieu des avalanches, des orages, des tremblements de terre et des raz-de-marée, des sécheresses, des cyclones, des éclipses peut-être, car ta puissance est démesurée. Tu n'es pas moins le Dieu des éclaircies, des brises, de l'arc-en-ciel et de l'aurore boréale, des couchers de soleil et des lunes nouvelles, des firmaments, des voies lactées et des comètes. De l'étoile polaire et de l'astre du soir, des îles enchantées, des étoiles filantes, du rossignol, de l'éphémère et de l'agneau. Peintre des papillons, des plumages, des fleurs. Tu es le Dieu des instants comme suspendus, paradis entrevus, des heures de bonheur, de tout espoir. Et le Dieu de toute promesse, fidèle et libéral, attentif et vibrant. Tu es le Dieu délicat des choses fragiles et secrètes. Tu les fis de tes doigts de fée, et d'une main légère aussi tu les répares, tu te donnes à tous, voix, tu les éternises. Dans les mystères immortels de tes desseins, ta puissance démesurée n'est que lumière. Ton énergie tempétueuse n'est qu'amour. Ton feu n'est que rayonnement de ton regard. Ta parole est musique, un chant vibrant de harpe.
C'était le pasteur Jean-Luc Gadreau dans Éloge du vrai Dieu. Des hommes comme nous, aux prises des études bibliques du pasteur Erwin Buchmann.
Donc après les victoires remportées par Élie, les miracles qu'il vit, voici que ce même homme vit une cuisante défaite et sombre dans la déprime. Et cela après ce qui s'est passé de si extraordinaire sur le mont Carmel. Je relis dans 1 Roi 19, 1 à 5. Donc Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et dans une vieille traduction, la traduction Osterwald, c'est exprimé comme ceci, il s'en alla comme son cœur le lui dit. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Comme son cœur le lui dit. Donc, ce qu'il fait là, en allant dans le désert, en allant s'asseoir sous le genêt, en disant ce qu'il va dire, ce n'est pas ce que Dieu lui a dit de faire ou ce que Dieu lui a dit de dire, mais il dit, il fait, et il dit ce que son cœur lui inspire. Cela vient de lui, cela ne vient pas de Dieu. Apprenons ici, qu'il agit de la sorte parce qu'il a eu peur de la parabole, de la parole et de la menace de Jézabel. Autrement dit, il craint une autre parole que la parole de Dieu. Élie a suivi son propre sentiment. La deuxième chose à souligner. Troisièmement, ce que Élie fait, il le fait de lui-même, il suit sa propre voie et non celle de Dieu. Alors disons attention, la crainte, la peur est mauvaise conseillère et risque de nous entraîner à de mauvaises actions que nous aurons à regretter ensuite. Car elle nous amène à craindre une autre parole, une parole étrangère à celle de Dieu, et à y obéir à notre détriment. C'est certainement pour cela que chaque jour dans la Bible, nous trouvons cette exhortation « Ne crains point, n'aie pas peur, ne t'affole point, etc. » Et là, je ne puis m'empêcher de me souvenir d'un témoignage que j'ai entendu par le pasteur roumain Richard von Brandt, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais c'était du temps de la dictature de Ceausescu. Il a été arrêté à un moment donné par la police. Et lorsque, le matin de bonne heure, la police est venue pour l'embarquer, et ils l'ont embarqué, il est resté 14 ans en prison après cela. Mais lorsqu'ils se sont saisis de lui, l'ont fait monter dans la voiture, il a ri. Et il a dit 366. Les agents, ils ont pensé qu'il avait perdu la tête. Et lui, il a expliqué pour finir pourquoi. Parce qu'il venait de faire des recherches dans la Bible et de découvrir que 366 fois, eh bien, il est dit « ne crains point, n'aie pas peur, ne t'effraie pas », etc. Et il a été arrêté le 29 février. Et il s'est dit 366, pas 365 fois, il y avait un « ne crains point » donc pour chaque jour, mais même pour le 29 février. Et c'est ça qui l'avait amené à rire, c'était le rire de la foi là. Il était heureux de savoir que Dieu, eh bien il était là aussi, ce jour-là il lui disait « n'aie pas peur », même avec ce qui lui arrive. Et c'est ainsi que vraiment, pour chaque jour, nous sommes exhortés à ne pas craindre. Et lui il a craint, Élie, la menace de Jézabel, ce qui l'a amené à faire quelque chose qu'il n'avait pas à faire. Et il a dit des paroles qui venaient de lui, mais pas de Dieu. Alors, souvenons-nous aussi que Jésus a dit « ne crains point ». Et nous connaissons notamment cette parole de Jésus au chef de la synagogue, Jaïrus. Lorsqu'on apprend à ce dernier que sa fille vient de mourir, Jésus dit « ne crains point, crois seulement ». Eh bien, j'aime beaucoup comme cette parole est rapportée dans la transcription Parole vivante. Il est dit là, « N'ayez pas peur, continue à croire, ça suffit. » C'est merveilleux. Quelle que soit la menace, quel que soit le danger, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, « N'ayez pas peur, dit Jésus. Continue à croire, ça suffit. » Suivre nos craintes, écouter nos sentiments et ne pas chercher Dieu face aux difficultés qui nous menacent, cela ne peut que nous conduire dans la déprime, dans la dépression, comme Élie. Après avoir pris connaissance de ce qui est arrivé à Élie, cet homme qui visiblement était un homme comme nous, et avant de recevoir quelques conseils de la parole de Dieu pour nous éviter les mêmes travers, écoutons donc les conseils donnés en son temps, par exemple, à Josué. Dieu lui donne des conseils particuliers avant qu'il ne prenne la relève de Moïse. Josué, qui lui a flanché, comme nous l'avons vu, lorsque les Gabaonites sont venus lui raconter des histoires, parce qu'il était un homme comme nous, il est tombé dans le piège. Mais nous l'avons rappelé aussi que il a fait de grandes choses et vécu de grands moments. Et c'est à lui que Dieu fait des recommandations particulières dans le chapitre 1er de son livre, au verset 7 à 8, notamment, il dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. » Pour nous, cela signifie prendre à cœur les paroles de Jésus, rapportées dans les évangiles et répétées ensuite par les apôtres dans leurs écrits, dans leurs épîtres. Que ce livre ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce même conseil que Dieu donne à Josué, nous le rencontrons ailleurs dans d'autres passages bibliques que je vous en cite quelques-uns pour que vous puissiez les noter. Le psaume 112, psaume 128, Ésaïe 48, 17 à 19, Jérémie 17, 7 à 8. Et relisons aussi à cet égard le premier chapitre du livre des psaumes. Psaume 1er, les trois premiers versets notamment. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas, donc ne s'installe pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui met sa joie, son bonheur, dans le livre du Seigneur, qui aime celui donc qui aime les directives de Dieu, s'attache à sa parole, s'imprègne de ses paroles, s'imprègne donc de ce livre jour et nuit, ou nuit et jour, littéralement le murmure, le récite, le médite, le repasse en lui-même, l'étudie, se penche sur lui, y réfléchit. Il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Je pense que c'est le désir de chacun de réussir dans ce qu'il fait, dans tout ce que l'on fait, pas occasionnellement, mais toujours. Or, nous voyons que c'est possible si l'on prend garde aux instructions, aux enseignements, aux conseils que nous trouvons dans la parole de Dieu. Élie, découragé, s'est assis sous le genêt. Il en a assez, il demande la mort. Et ce que Dieu dit à Josué est valable dans de telles situations. Fortifie-toi et aie bon courage. L'ange venu à la rencontre d'Élie sous le genêt lui apporte une nourriture et lui donne la force, par cette nourriture, la force de reprendre la route et de poursuivre le service dans lequel il a été engagé. Voilà une petite histoire que j'ai lue et que j'aimerais lire pour vous au sujet du découragement. C'est intitulé « Le meilleur outil du diable ». En effet, il avait été annoncé que le diable allait cesser ses affaires et offrir ses outils à quiconque voudrait payer ou voudra payer le prix. Le jour de la vente, ils étaient tous exposés d'une manière attrayante. Malice, haine, envie, jalousie, sensualité, fourberie, tous les instruments du mal étaient là, chacun marqué de son prix. Séparé du reste, se trouvait un outil en apparence inoffensif, même usé, dont le prix était supérieur à tous les autres. Quelqu'un demanda au diable ce que c'était. « C'est le découragement, » fut la réponse. « Eh bien, pourquoi l'avez-vous marqué aussi cher ?»« Parce que, » répondit le diable, « il m'est plus utile que n'importe quel autre. Avec ça, je sais entrer dans n'importe quel homme. Et une fois à l'intérieur, je puis le manœuvrer de la manière qui me convient le mieux. Cet outil est usagé parce que je l'emploie avec presque tout le monde et très peu de gens savent qu'il m'appartient. » Il est superflu d'ajouter que le prix fixé par le diable pour le découragement était si élevé que l'instrument n'a jamais été vendu. Le diable l'a toujours en sa possession et il continue à en user. Alors, soyons attentifs, sur nos gardes, lorsque le découragement frappe à notre porte, surtout ne le laissons pas entrer. Donc, si vous êtes découragé, comme Élie, laissez-vous plutôt encore nourrir par Dieu, par sa parole, puis avec courage, reprenez la route. Ne permettez pas au diable de se servir de l'outil qu'il a toujours en sa possession, le découragement. Répondons plutôt à l'invitation de Jésus. Elle est valable encore aujourd'hui et toujours. Matthieu 11, 28 à 30. Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. » Je souligne cela. Jésus dit, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. On connaît, on a retenu, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Mais il en dit un peu plus là. Ainsi, dit-il, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Luc 11, 27 à 28, je trouve que ce passage-là, qui a donc les mêmes références, mais dans un autre évangile, 11, 27, 28, eh bien là, Jésus, pendant qu'il parlait, quelqu'un de la foule, une femme, s'est écrié « Combien la mère qui t'a mise au monde et qui t'a allaité doit être heureuse ?» Mais Jésus répond « Le bonheur, ce n'est pas d'avoir eu des circonstances ou des personnes particulières autour de soi. » Il dit « Heureux sont et seront pour toujours ceux qui écoutent ma parole, la parole de Dieu, et qui la mettent en garde. » Souvenons-nous de sa conclusion à son sermon sur la montagne. La maison bâtie sur le sable et l'autre bâtie sur le roc. Nous connaissons cette histoire, mais Je vais en lire quelques extraits. C'est dans Matthieu 7, les versets 24 à 29. Jésus dit, « Celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, elle reste debout, inébranlable, car ses fondations reposent sur le roc. Par contre, celui qui aura écouté mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence, et si tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, voilà que tout s'effondre, il ne reste qu'un grand tas de ruines. Donc, écoutez ce que Jésus dit, et le faire, pas se contenter d'entendre simplement, seulement et ne pas faire. D'ailleurs, j'aime bien me souvenir que dans les textes originaux, tant grec qu'hébreu, le mot « obéir » est synonyme de « écouter » ou « écouter » synonyme d'obéir. D'ailleurs, il y a dans la langue de Goethe, la langue allemande, il y a deux mots. L'un, c'est « horchen » qui veut dire « écouter » et l'autre, c'est « gehorchen » ce qui veut dire obéir. On voit qu'il y a là une relation très étroite. Et quelqu'un qui écoute, mais qui ne fait pas, il n'obéit pas, et qui n'a pas vraiment écouté, il a entendu. Mais il convient, Jésus dit, d'écouter, de faire selon ce qu'on a entendu, et alors on est l'homme sage qui bâtit sur le roc. Prenons à cœur aussi cette exhortation de Jacques. Je lis dans son épître au chapitre 1er, dans les versets 19 et suivants, « Que chacun de vous soit prompt, toujours prompt, prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler. » Et ne se hâte pas de se mettre en colère. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et tout excès de méchanceté. Accueillez, dans un esprit humble et docile la parole plantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut, à la délivrance, à la guérison, à la libération, au succès. Tout cela en fait partie du salut que Dieu nous offre en Jésus. Accueillir la parole avec douceur, simplicité, humilité, et elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en acte. Sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Mettez en pratique la parole et ne vous trompez pas vous-même en ne la mettant pas en pratique. On ne peut que se tromper lorsqu'on fait cela. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté et l'étudie assidûment, avec soin, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour obéir, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Un tel homme sera heureux dans tout ce qu'il entreprendra, dans toutes ses activités. Voilà ce qui nous est proposé. Pour conclure, Élie, un homme comme nous, oui, et nous pouvons dire nous, des hommes comme Élie, ce qu'il a vécu de merveilleux, alors qu'il agissait, mettant en pratique la parole que Dieu lui adressait, nous pouvons le vivre dans ces mêmes conditions. En écoutant la parole pour la mettre en pratique. Puis lorsqu'il est entré dans la dépression, heureusement, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne nous abandonne pas non plus dans ces moments-là. Le Seigneur n'a pas laissé sombrer Pierre au fond de l'eau lorsqu'il a commencé à s'enfoncer parce que lui aussi, il n'a pas continué à écouter ce que Jésus lui a dit. Il a laissé résonner dans ses oreilles la parole de Jésus. « Viens !» Il y a donné suite, il a marché sur l'eau, mais à un moment donné, il a mis plus d'attention à ce qui se passait autour de lui, au vent. Et il a pris peur. Les vagues qui s'agitaient, il a pris peur. Et le voilà qui s'enfonce. Et Jésus l'a bien dit. Pourquoi tu doutais, homme de peu de foi? Et c'est vrai, nous avons besoin, nous, de nous en tenir justement là où les circonstances essayent de nous prouver que Dieu nous a laissés, mais nous maintenir dans cette confiance, le Seigneur est fidèle. Il ne n'abandonne pas les siens, et surtout pendant ces moments-là. Là encore, ça me rappelle une petite anecdote. J'aime bien les petites histoires parce qu'elles nous apprennent beaucoup de bonnes choses, quelquefois. Cet homme qui, chrétien, repassait dans son esprit ce qu'il avait vécu au cours de sa vie, et puis c'était comme s'il avait marché à côté avec le Seigneur sur une plage où leurs pas se marquaient dans le sable. Et voilà qu'il a constaté que certains moments de sa vie, là où il avait le plus de difficultés, où il était vraiment dans l'épreuve, il n'y a plus que les traces de pas d'un seul homme. Et il a fait la remarque au Seigneur, il dit, mais comment ça se fait-il? Là où j'avais le plus besoin de toi, tu n'étais plus à côté de moi, tu ne marchais plus avec moi, je ne comprends pas. Le Seigneur lui dit, mais bien sûr que j'étais là, seulement... Si tu ne vois plus deux traces de pas, c'est parce que je te portais à ces moments-là. Et c'est vrai, le Seigneur nous porte, et quand on pense qu'il n'est plus là à côté, mais il est avec nous, et il nous porte dans les moments les plus difficiles. Donc nous n'avons pas de quoi nous laisser décourager, entrer dans la déprime, et nous laisser aller, à dire « j'en ai assez ». Dieu nous donne alors, dans ces moments-là, une fois encore l'occasion d'écouter sa parole. C'est peut-être votre cas en ce moment. Et d'y obéir, comme il nous le montre dans l'histoire d'Élie. Élie s'est couché, s'est endormi sous le genêt, mais voici un ange le toucha et lui dit « lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que Dieu lui donna ainsi par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, où il a de nouveau pris contact vraiment avec Dieu pour reprendre la route et continuer son service, son ministère. Alors, pour terminer, laissons-nous dire cela encore aujourd'hui. Levez-vous et mettant votre main dans la main de Dieu, reprenez la route et allez de l'avant avec confiance.
Des hommes comme nous. Vous écoutez Oconopod.
Every day, anywhere, anytime, the digital gospel channel, Ebenezer International, your station.
À l'écoute, voilà qui met fin à ce premier numéro de Oconopod, des hommes comme nous, un programme qui vous permet de revivre les études bibliques du pasteur Erwin Buchmann, qui est l'un des tout premiers qui ont accepté de collaborer avec ce ministère. Il est maintenant dans les bras du Seigneur, mais nous avons l'assurance que ces messages continueront à produire de l'effet, puisque c'est l'un des objectifs de tous les serviteurs de Dieu. Et avant de partir, je remercie la radio Phare FM de Grenoble, qui était avant la radio Certitude. Et c'est de cette radio que nous avons reçu les CD contenant ces messages sur la demande de l'auteur. Je remercie également tous les artistes qui ont contribué à la réalisation de cette première édition de Oconopod, des hommes comme nous, tels que Daniel Piala, Dani et Moïse Utrel, Rochelle Hanson. La version instrumentale qui nous sert de générique est aussi une courtoisie de Dani et Moïse Utrel, de la société CDE. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Oconopod, des hommes comme nous. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil, qui vous dit une fois de plus merci, que le Seigneur vous bénisse et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de ce même programme. Au revoir. Vous venez d'écouter Des hommes comme nous, la reprise des messages du pasteur Erwin Buchmann sur la radio chrétienne Ebenezer International, The Digital Gospel Journal, Your Station.
The truth is I